En attendant de retrouver vos habitudes à la rentrée, on vous propose de découvrir cette nouvelle émission dont vous pouvez retrouver tous les épisodes sur franceculture.fr et l'application Radio France. France Culture, ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbo.
Big Bang, nous voilà.
Et là, j'ai envie de dire, quelque part, paye ton Big Bang.
Hey, Big Badaboom.
Big Badabig Boom.
L'univers a une histoire. Avant que le monde soit monde, il a été, il y a environ 13,8 milliards d'années, très condensé, dense et chaud, avant de s'étendre brutalement. C'est le Big Bang. Ce n'est pas une étincelle originelle, ni tout à fait une explosion initiale, mais un modèle cosmologique. Dénommé Big Bang par l'un de ses contradicteurs, cette théorie a vu le jour dans les années 30 avec les travaux du chanoine belge Georges Lemaître. Mais elle a mis du temps à être acceptée à cause de sa ressemblance avec le livre de la Genèse. Comment ce modèle s'est-il construit? Comment a-t-il permis de replacer l'humain au centre de tout et de questionner nos origines? Comment la découverte du Big Bang a-t-elle changé le monde? Et pour explorer cette histoire inflationniste, j'ai le plaisir de recevoir David Elbaz. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien au CEA, auteur de plusieurs ouvrages, dont La plus belle ruse de la lumière et Si l'univers avait un sens, aux éditions Odile Jacob. Et à nos côtés également, Thomas Lepeltier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes essayiste et co-auteur de Big Bang, histoire critique d'une idée, paru aux éditions Gallimard. Alors, pour entamer notre émission, il est nécessaire de faire un petit point sur ce qu'est le Big Bang et ce qu'il n'est pas. On en a parlé un petit peu dans cette introduction. Dans l'imaginaire collectif, ce nom sonne un petit peu comme une explosion. Comment est-ce qu'on le définit simplement, David Elbaz?
Alors, je pense qu'il est important de se rendre compte qu'on n'a pas de théorie du Big Bang. D'ailleurs, on ne sait pas trop définir ce que serait le Big Bang. Alors, pour nous, qui pratiquons l'astrophysique au quotidien, c'est le fait que l'univers est en expansion. Et que si vous avez un billard américain avec des boules regroupées en triangle et une boule blanche que vous tapez dans toutes les boules, et vous prenez une photo des boules à un moment donné, et que vous connaissez leur position et leur vitesse, si vous pouvez remonter le fil en arrière et savoir à quel moment la boule blanche a tapé. Le Big Bang, c'est ça. C'est juste qu'on voit un mouvement, on le remonte en arrière, on se dit « ça a dû partir de là ». Et on appelle ça le Big Bang. Voilà. Mais il n'y a pas de véritable théorie, et on a un certain nombre d'observations qui montre que c'est en expansion et donc que l'univers, quelque part, a une histoire.
Et donc, du coup, il n'y a pas vraiment de ce moment, en fait, particulier du Big Bang. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion, peut-être, dans le langage commun, Thomas Lepeltier?
La grande question, c'est de savoir si ce mouvement dont vient de parler David nous permet d'avoir un accès à l'ensemble des phénomènes qui existent, c'est-à-dire à l'univers, à le grand tout. Donc, est-ce qu'on peut parler de ce grand tout qui serait l'univers, ou est-ce que ça serait finalement un phénomène un peu plus local? Et c'est donc une interrogation qu'il y a sur ce concept d'univers qu'on va manier là dans cette discussion, et sans jamais trop savoir de quoi on va parler, ou plutôt on va utiliser, je pense, plusieurs sens du mot univers. Et je crois qu'on est toujours un petit peu piégé, parce qu'on peut dire plusieurs choses par l'univers, donc je dirais le grand tout, l'ensemble de tout ce qui existe, ou alors un phénomène local. Alors local, quand je dis, c'est à des années-lumière de distance, mais quand même qui ne serait pas le grand tout. Et il y aura, on discutera peut-être en toute fin d'émission, ce concept de multivers, justement, qui montre bien que cette notion d'univers, elle est peut-être un peu floue. Et alors, comment situer le Big Bang là-dedans? C'est la question dont on va essayer de traiter.
Et comment se représenter l'univers, en fait, avant cette théorie ou ces théories, dans les cosmogonies grecques? Avant tout fut le chaos. Voici une archive de Fernand Lotte, essayiste et historien. Nous sommes en 1948 au micro de la radiodiffusion française.
Cette idée simple qui fait sortir tous les êtres d'un principe unique ne se retrouve pas dans la cosmogonie d'Hésiode, déjà plus compliquée et plus savante. La cosmogonie d'Hésiode, qui date du 8e ou du 9e siècle avant notre ère, est un système. Et ce système repose sur une analyse des éléments constitutifs de l'univers. Selon Hésiode, avant tout fut le chaos, puis Géa au large sein, la terre, éternel et inébranlable soutien de toutes choses. Et puis Eros, le plus beau des immortels, dit les poètes, qui pénètre de sa douce langueur et les dieux et les hommes, qui dompte les cœurs et triomphe des sages conseils. Le chaos n'a d'ailleurs pas ici la signification qui lui sera plus tard attribuée. Il n'est point la matière à l'état inerte et confus. Le chaos, c'est l'espace, l'espace béant, ouvert pour tout contenir et qui a tout précédé.
Mais on parle beaucoup ici de chaos. Comment l'univers était-il pensé justement avant la découverte du Big Bang, avant ce XXe siècle? On n'est pas obligé de remonter jusqu'à l'Antiquité, mais est-ce que tout était justement stable, fixe et qu'on cherche ce point de création, un peu ce chaos vers l'ordonnement?
Alors ça, c'est une très bonne question parce que, voyez-vous, quand on regarde le monde, imaginons que je regarde le monde avec autour de moi et que je vois qu'il y a un petit point qui se déplace en permanence autour de moi. Il y a deux possibilités. Soit il y a un petit point, soit j'ai une tache sur mes lunettes. Et donc, on regarde le monde avec des lunettes, qui sont le contexte culturel, théorique, philosophique avec lequel on travaille. Et même pour un scientifique qui se veut objectif, il doit savoir qu'il n'arrive pas à sortir de sa culture et des mots qu'il utilise pour nommer le monde. Donc c'est vrai que c'est troublant de voir que la description qu'on fait de ce qu'on appelle le Big Bang, un chaos primordial, rappelle les grands mythes. Et là, on entend parler du chaos chez les Grecs. Chez les Chinois, qui n'ont pas connu la même philosophie, ils parlent du Runtun, qui est un chaos primordial. Chez les Maoris, en Nouvelle-Zélande, ils parlent du Kore-Kore. Chez les Peuls, en Afrique, ils parlent du Kala-Kala.
Mais c'est un chaos à chaque fois qui va vers plus d'ordre ou de désordre.
Justement, et dans la Bible, c'est le Tohu-Bohu. À chaque fois, on utilise un terme pour parler du chaos en supposant un principe qui est là, immanent, qui attend de s'exprimer, potentiel, qui va organiser le monde. Dans la vision de ce qu'on appelle le scénario du Big Bang, c'est exactement la même chose, un chaos primordial avec des principes organisateurs. Alors, c'est tous ces grands mythes-là qui précèdent la théorie qu'on a aujourd'hui, lui ressemblent beaucoup. Et donc, c'est vrai que ça a conduit à se poser la question de l'illusion narcissique. Comment fait-on pour... Et on ne peut pas s'en sortir. Je rebondis sur ce que disait Thomas tout à l'heure. Ce qu'on appelle l'univers, c'est vrai que c'est important de préciser qu'on parle de l'univers observable, une zone accessible, et donc qui est en expansion, mais au-delà, on ne sait pas ce qu'il y a, d'ailleurs on ne sait pas ce que ça veut dire au-delà, et donc il pourrait y avoir un multivers ou autre, et donc toujours, il faut avoir à l'esprit ça. Néanmoins, ça va être l'énigme majeure sur laquelle on va aboutir avec l'implication de cette théorie de Big Bang, c'est comment l'univers a pu s'organiser en commençant à partir du chaos. Et c'est la grande énigme de toutes les grandes mythologies et toutes les grandes religions et de la science. On a en commun cette énigme. Pourquoi on est là?
Et à partir de quel moment, Thomas Le Peltier, on change de ce terme de cosmos, qui a beaucoup été employé dans les cosmogonies anciennes, au terme vraiment d'univers? Et qu'est-ce qu'il définit ou regroupe quand il est employé?
C'est une période qui s'étend sur plusieurs siècles, cette transition. On pourrait dire la fin du cosmos, c'est un petit peu la fin de la physique aristotélicienne, où il y avait à l'époque, donc on va dire à la révolution copernicienne et galiléenne, il y avait un cosmos avant cela, qui était le cosmos d'Aristote, qui était un cosmos fini. On passe à un univers qui va devenir beaucoup plus indéfini. Dans la physique galiléenne, quelque part, on n'a pas besoin de se rapporter au grand tout, à l'ensemble de ce qui existe pour définir une physique. Et l'univers va perdre un peu de sa consistance. Il sera en toile de fond de la physique. Et pendant plusieurs siècles, on parlera moins d'univers. Et là où ça va un petit peu changer, c'est au 19e siècle, on dit souvent que le Big Bang est un modèle cosmologique qui nous a fait retrouver une origine à l'univers. Mais c'est pas exact tout à fait en histoire des sciences. Dès le 19e siècle, avec la thermodynamique, et le second principe de la thermodynamique qui dit que l'entropie ne fait que croître, donc ce principe où cette utilisation du terme entropie a été développée à partir de 1865, elle dit que finalement l'univers va vers son désordre et tend toujours vers un désordre. Et les physiciens se sont dit, si l'univers tend toujours vers un désordre et si on n'est pas actuellement dans le désordre maximum, c'est qu'il y a eu une origine. Et donc dès le 19e siècle, des physiciens ont pensé à cette origine de l'univers. Et pour faire écho à ce dont on va parler tout à l'heure, tout de suite ça a été récupéré par des théologiens qui ont vu tout de suite dans ces considérations de thermodynamique, donc on est vraiment dans la physique des moteurs à explosion quelque part, mais on l'appliquait à l'univers, ils ont vu finalement une corroboration des grands récits mythiques. Mais il y avait en même temps, donc cette préhistoire de la cosmologie moderne à travers la thermodynamique. En même temps, il y avait beaucoup de réticence à parler justement du grand tout. Et il y avait ce que le philosophe Merleau-Ponty a défini la docte ignorance cosmologique au XIXe siècle, où beaucoup de physiciens évitaient de parler de l'univers. Ils se contentaient de parler d'astrophysique, des astres qui peuplaient, et sans savoir déjà si l'univers était infini ou pas infini. Il va vraiment falloir attendre, quelque part, les travaux d'Einstein pour nous replonger dans cette idée qu'on peut concevoir mathématiquement le grand tout. Donc je dirais, il y a, entre le cosmos et l'univers, même s'il y a eu des balbutiements, il y a eu des gens qui, à titre individuel, ont essayé de penser avec la physique ce grand tout, on a une période de 3-4 siècles, disons.
Et il y a un point très intéressant que vous avez soulevé. Vous avez parlé de physiciens et de théologiciens. En fait, qui sont les savants qui pensent à ce moment-là la cosmologie avant qu'elle n'apparaisse vraiment? Il y a un mix de savants, de philosophes, d'astronomes, mais pas que. En fait, tout se mélange un petit peu, David Elbaz.
Oui, parce que la motivation est la même. Alors, bon, là, on touche tout de suite à celui qui va déclencher ça, puisque c'est un abbé, l'abbé Georges Lemaître, qui va résoudre mathématiquement le problème. Alors c'est intéressant parce que lui, il a d'abord écrit un livre qui s'appelait Fiat Lux, où il cherchait un peu à comprendre dans la religion l'explication de l'univers. Puis il va aller travailler avec Arthur Eddington, qui est un Quaker, en 1923. Là, il a 29 ans, et Eddington lui dit attention, pas de syncrétisme. Il faut bien séparer la religion de la science. À partir de là, il va aller faire sa thèse au MIT, aux États-Unis, et il va bien séparer les deux. Eddington lui apprend la théorie d'Einstein. Georges Lemaître résout les équations d'Einstein. Einstein n'avait pas de solution exacte à ces équations, et il aboutit.
Il aboutit à ça, on va revenir.
Mais donc, on est au cœur du problème. C'est effectivement, il y a Alexandre.
Il y a un lien de philosophe aussi. Il y a des penseurs.
Il y a
en
des
fait.
Penseurs. Les, ça n'interdit pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment, il existe. Moi, j'ai croisé. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir, mais le scientifique qui me paraissait le plus matérialiste de tous, qui était vraiment très rationnel, je me rappelle des discussions que j'avais avec lui au bureau, hein, etc. Et où j'ai découvert après coup qu'en fait c'était un religieux. Pour moi, c'était une surprise, et en fait, ça existe, c'est possible. Alors, on peut penser que c'est une forme de double vie, et en fait, je trouve que c'est bon pour la santé d'accepter d'avoir deux regards séparés. Voilà, c'est pas un problème. Quand, il faut les considérer séparément.
Et puis, dans l'élaboration de cette théorie, si on reste encore un petit peu avant le XXe siècle, il y a aussi Emmanuel Kant, par exemple, philosophe, qui suggère l'existence d'univers. Il touche déjà, bien avant qu'on puisse faire des mesures, bien avant tout ça, à une sorte de structure, en fait, de ce que peut être ce qu'on voit dans le ciel. Thomas Le Pelletier.
Alors, il y a deux Kant, si je peux me permettre. Il y a le Kant de la théorie du ciel de 1755, où là, effectivement, en bon newtonien, il va appliquer un peu la physique newtonienne pour essayer de concevoir un univers. Mais là aussi, j'utilise le mot univers entre guillemets, parce que c'est très flou dans le texte de Kant. Il va essayer de concevoir des modèles, alors qu'ils peuvent s'appliquer au système solaire ou des modèles galactiques. Et il va essayer de voir comment, finalement, avec de la matière dans l'univers, ou dans l'espace, on va plutôt être un terme un peu moins précis qu'univers, avec de la matière de l'espace, comment il arrive à former un monde, il dit. Donnez-moi de la matière et je formerai un monde.
Est-ce qu'il n'y a que de la théorie ou il y a aussi des calculs dans...
Il y a des calculs et il y a beaucoup de théories, c'est beaucoup des calculs à main levée, comme on pourrait dire. Mais il s'appuie bien sur la physique newtonienne. Et il va, cette théorie du ciel qu'il va développer, donc peut s'appliquer à notre galaxie. Alors c'est le grand débat aussi de savoir si notre galaxie fait l'ensemble de ce qui existe dans l'espace. Mais chez Kant, il y a cette idée qu'il peut y avoir d'autres galaxies. Et donc, il y a cette idée d'univers île. Et ça, c'est donc, il développe finalement un des premiers systèmes du monde, de formation du monde à partir de la matière dans l'espace. Mais on est en 1755 et en 1781, il écrit Critique de la raison pure. Et dans Critique de la raison pure, il va développer ce qu'on appelle les antinomies de la raison pure, et justement qui sont des contradictions. Ou quand arrive finalement à l'idée qu'on ne peut pas penser l'univers, qu'on peut le penser aussi bien infini que fini, on peut le penser aussi bien ayant une origine dans le temps que ne pas ayant d'origine dans le temps. Il montre que les raisonnements sont valables et donc il montre que finalement la raison, quand elle essaye de penser l'univers comme un ensemble de ce qui existe, arrive à des apories. Et c'est pour ça que pour lui, l'univers va devenir finalement une idée régulatrice. Il n'y a pas d'univers, c'est pas une chose l'univers. C'est une idée qui nous permet de donner du sens à ce qu'on voit dans le monde. Donc on n'est plus le concept d'univers disparaît avec Kant. On ne sait plus ce que c'est. Et donc on est en 1781 et bien sûr après il ne va pas revenir sur cette idée. Donc il y a une dissolution de l'idée d'univers en 1781. Comme je disais tout à l'heure, on est dans le flou. L'univers reste pour Kant juste une vague idée qui nous permet juste de penser les astres qu'on observe.
France Culture, ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbo.
Et on va revenir justement à la découverte un petit peu des galaxies et de leur mouvement, parce qu'il y a un enjeu immense de mesure dans ces questions-là. Il y a notamment un débat, c'est-à-dire que pour l'instant, au début du XXe siècle, on ne parle pas encore de galaxies, on parle de nébuleuses. Et il y a deux camps qui s'opposent, avec ceux qui pensent que que ces galaxies sont dans la nôtre ou que nous sommes à l'extérieur. Le fait qu'on puisse se trouver, que d'autres étoiles et galaxies puissent se trouver à l'extérieur de la Voie lactée dépasse déjà un peu l'entendement, en fait, David Elbaz.
Oui, tout à fait. Parce que pour Einstein, quand il avait écrit sa théorie de la relativité générale en 1915, l'univers était réduit à un ensemble d'étoiles qu'on appelle la Voie lactée. Et en plus, il n'est pas en mouvement puisqu'on ne voit pas les étoiles bouger. Par contre, on a vu des nébuleuses, on a vu ces espèces de taches diffuses. Et là, il y a une espèce de coïncidence, de croisement du temps assez intéressant, parce qu'on parlait d'Emmanuel Kant tout à l'heure. Il se trouve qu'il y a un homme d'affaires qui est devenu scientifique, qui s'appelle Percival Lowell, qui avait lu le livre de Camille Flammarion qui s'appelle La planète Mars, et qui avait lu aussi le livre d'Emmanuel Kant dont on vient de parler sur la théorie du ciel en 1755. Et ce qu'a dit Kant, c'est que puisque les planètes tournent dans le plan, dans le même plan qu'on appelle le plan de l'écliptique autour du Soleil, et qu'elles sont loin les unes des autres, c'est qu'elles doivent partager le même lieu de naissance, qui est une nébuleuse primitive, un disque qui tournait. À partir de ce concept-là, il va donner une idée de la naissance du système solaire. Il va aussi dire que les nébuleuses spirales sont d'autres galaxies qui tournent, sans aller jusqu'à dire vraiment des univers, en fait, c'est d'autres. Et ce qui est rigolo, c'est que Percival Lowell va construire un télescope, va demander à quelqu'un qui s'appelle Vesto Slipher d'aller utiliser ce télescope pour prouver la théorie d'Emmanuel Kant, que ce sont des systèmes solaires en formation. Sauf que quand on veut étudier le mouvement, il faut faire ce qu'on appelle la spectroscopie, et donc envoyer la lumière de ces nébuleuses dans une fente et faire un arc-en-ciel. Et quand on fait ça, eh bien, on n'a plus assez de lumière qui passe dans la fente, et donc là, Vesto Slipher va être bloqué. Il va changer la focale du télescope, il va changer le temps d'exposition, il va changer l'émulsion sur les plaques photographiques, il va tout transformer.
Il est bloqué parce qu'il ne voit plus suffisamment de lumière arriver, c'est ça ?
Oui, parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais en fait, plus on a un télescope qui est grand, et plus il voit petit. Parce qu'en fait, il est fait pour voir des petits points et collecter plus. Et donc, quand on veut voir une tâche, même aujourd'hui, le James Webb, par exemple, qui est le plus puissant télescope aujourd'hui, il n'est pas capable de voir des tâches. Il n'est pas capable de voir une galaxie diffuse près de nous. Il peut voir une galaxie très très lointaine, il n'est pas fait pour. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas de télescope pour ça. Et lui, il va transformer le télescope, et là, en essayant de trouver un système solaire en formation, il va s'apercevoir que ce truc-là s'éloigne de nous à 500 km par seconde, c'est-à-dire à plusieurs millions de kilomètres.
Est-ce qu'il pense qu'il se trompe à ce moment-là ?
Alors là, c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire, parce que Vesto Slipher fait cette observation-là. D'abord, il dit, bon, ces nébuleuses, elles ne peuvent pas être dans la Voie lactée. Elles sont d'autres nébuleuses, c'est d'autres systèmes, c'est des systèmes extragalactiques. Il l'écrit dans un article en 1917, il est clair là-dessus. Sauf qu'il y a un problème, c'est que les étoiles se déplacent à environ 10 km par seconde, là c'est 500, et il écrit dans son article, il voit que tout s'éloigne par rapport à nous. Donc il dit, nous suggérerons une tentative d'explication de cette prépondérance pour les vitesses positives un peu plus tard.
Donc, il a pris peur. Il s'enlève en fait de ce problème-là.
Il est tout seul dans le sous-sol du télescope. Il l'écrit dans un article. Il 1917. Il continue de faire ses mesures de vitesse, etc. Et toutes les mesures de Vesto Slipher sont les seules, avant des décennies et des décennies, des mesures des vitesses des nébuleuses. Il ne sera jamais cité. Mais c'est lui qui va découvrir pour la première fois en 1917 l'expansion de l'univers.
Et c'est intéressant de voir justement ce fait d'être confronté à peut-être ce qu'on pense comme une erreur, que ce qu'on pense comme des théories en fait qui ne peuvent pas être expliquées. Thomas Le Pelletier, est-ce qu'il n'y a pas justement dans cette histoire la confrontation avec un monde qu'on ne parvient pas tout à fait à expliquer à plusieurs moments de cette découverte ?
Souvent, effectivement, comme le disait David, il fallait interpréter ces vitesses apparentes. On parlait beaucoup de vitesses apparentes à l'époque. Et certains physiciens même se disaient que c'était des effets mathématiques. Ils ont du mal à accepter cette idée qu'il y ait des nébuleuses, donc des ensembles d'astres qui allaient à des vitesses vertigineuses. Et effectivement, je pense, mais ça se rapporte à toute activité scientifique, quand il y a des phénomènes un petit peu qui sortent un petit peu du cadre de la façon dont on pratique la science, il y a une période où on les met de côté. On ne sait pas comment expliquer et on continue la science comme on savait la faire jusqu'à maintenant, en mettant cette énigme, en espérant qu'elle soit, je pense, dans un certain temps résolu dans le cadre de pensée dans lequel on est. Et puis, de temps en temps, elle vient faire basculer ce cadre de travail.
On ne pense pas initialement forcément à un changement de paradigme, en fait, dans l'histoire des sciences, dès qu'on a une mesure qui s'éloigne un petit peu de tout ça.
Je pense qu'en général, les physiciens ont tendance à éviter les changements de paradigme. Ils ont tendance
évite le changement.
De manière générale. Donc, on a un petit peu peur du changement. Mais je pense que c'est sage s'il fallait changer de paradigme à chaque fois qu'il y a une mesure qui ne colle pas au cadre de pensée. Donc, en général, on s'accroche au cadre et effectivement, on pourrait voir dans la construction du modèle du Big Bang, mais même jusqu'à nos jours, on pourrait dire jusqu'aux dernières découvertes les plus récentes, on essaye toujours de les interpréter dans le cadre de théories qui sont relativement bien établies. Donc, ça a été le cas, mais je veux dire, faut pas le voir comme un conservatisme désuet. Je pense que la science est un équilibre entre il faut un certain nombre de conservatisme et puis il faut aussi un petit peu de temps en temps savoir bousculer les intérêts. C'est trouver le bon équilibre qui fait, je pense, le bon chercheur.
Et parce qu'on cherche aussi un faisceau d'indices, donc petit à petit, de plus en plus de choses pour étayer et construire un modèle. À cette époque, on est encore là un petit peu avant les années 20. Einstein développe sa théorie de la relativité restreinte et générale. Surtout. Mmh. Que dit la relativité générale d'Einstein et comment Einstein voit l'évolution et l'origine de l'univers, David Elbaz?
Alors, dans la théorie d'Einstein, dans sa vision, il n'est pas du tout dans l'écriture d'une théorie qui va essayer d'expliquer l'histoire de l'univers, etc. Il se rend compte que la gravité se manifeste d'une manière qui est tout à fait analogue à une accélération. C'est-à-dire que je peux ressentir la même chose que si je suis dans une fusée qui accélère, je ressens une attraction vers le sol qui est la même que si j'étais sur Terre. Et il se dit, cette analogie ne peut pas être une pure coïncidence. Et beaucoup de, alors je ne vais pas revenir là-dessus, mais beaucoup de découvertes scientifiques viennent d'analogies troublantes. Vous apercevez que voilà, et même dans la vie de tous les jours, d'ailleurs, il nous arrive des moments où c'est le type qui prend l'autoroute et qui allume la radio et il entend il y a quelqu'un qui a pris l'autoroute dans sens inverse et il dit non, c'est pas un, c'est des dizaines. Bon, à ce moment-là, c'est le moment de réfléchir. Et donc Einstein, il est du type à réfléchir à deux, voilà. Et donc là, il y a deux choses qui sont et donc il se rend compte qu'il peut formuler complètement par une dynamique de l'espace. Donc l'espace dynamique donc dans le temps, les propriétés de la gravité. Et la gravité devient une manifestation de l'espace-temps. Et donc c'est ça sa théorie. Sauf que il aboutit à une équation mathématique qui n'a pas de solution exacte telle qu'il l'a formulée. Il manque une solution exacte. Et ils vont naître de cette théorie deux enfants, c'est-à-dire deux personnes vont apporter une solution exacte. Ça va être Karl Schwarzschild, qui est sur le front pendant la guerre russe, quelques mois plus tard, et qui va proposer une solution exacte dans le cas d'une étoile qui s'effondre, ce qui va donner lieu ensuite à ce qu'on appelle le trou noir, auquel Einstein ne croira jamais. Il écrira un article en 1939 pour montrer que si mathématiquement c'est possible, physiquement c'est tellement abominable que c'est impossible. Il écrit l'article. Il démontre que c'est impossible parce que la matière tomberait à une vitesse qui est celle de la lumière, c'est pas possible. Et pareil, en 1927, il croise Georges Lemaître qui lui dit « donc, vous avez lu mon article où je dis que une solution exacte de vos équations, ça serait que l'univers soit en expansion. » Et Einstein dit « voilà, votre mathématique parfaite, mais la physique est abominable. » Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne tombe pas par hasard tout ça. C'est-à-dire que...
Il y a dans l'air, est-ce qu'il y a déjà dans l'air...
Georges Lemaître connaissait toutes les mesures de Westhoff-Slipher. Aux États-Unis, ça circulait dans les couloirs. Il cite quelqu'un qui s'appelle Stromberg, qui lui-même, dans son article, a un tableau où toutes les vitesses des galaxies viennent de Westhoff-Slipher. Edwin Hubble, en 1929, plus tard, utilisera, qui celui dans les livres d'histoire qui a découvert l'univers, l'expansion de l'univers, utilisera que les vitesses de Slipher. aucune mesure n'a été faite de vitesse autre que par cet homme, qui n'est jamais cité. Pourquoi ? Parce qu'il a dû modifier le télescope pour y arriver, parce qu'un grand télescope n'est pas fait pour voir des nébuleuses. Georges Lemaître, il a la théorie d'Einstein, qui n'était pas dans la vision d'Einstein, la théorie de l'univers.
Mais il en voit quelque chose, en fait.
Mais cette théorie a des implications, donne lieu à des enfants, le trou noir et le Big Bang, que va renier le père. C'est intéressant. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Maintenant, les trous noirs, c'est un peu difficile de plus y croire. Le Big Bang, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais l'expansion de l'univers, je vous dis juste en deux mots pourquoi je pense que c'est imparable. Thomas me dira peut-être qu'il n'est pas d'accord. Je dis pourquoi c'est imparable. C'est imparable pour moi pour une raison qui n'est jamais celle qu'on dit. C'est que moi, tous les jours, je regarde l'univers lointain. Et quand je regarde les galaxies, ce sont des bébés galaxies toutes petites qui n'ont rien à voir à celles d'aujourd'hui. Les étoiles sont toutes jeunes, je n'ai pas d'étoiles vieilles. Les galaxies changent. Et donc, je le vois, ça. Donc, ça veut dire que c'est pas le même. Donc, c'est comme si vous alliez dans une nursery et vous voyez des bébés, et ils sont plus jeunes que moi. Et ça, ça prouve que l'univers a une histoire. Voilà.
Et justement, dans cette histoire, on va faire une pause sur Georges Lemaître, justement, qui était chanoine belge et qui a eu ce double appel des sciences et de Dieu. Comment est-ce qu'il arrive à s'intéresser aux sciences, Thomas Lepelletier, ou à l'inverse, comment est-ce qu'il arrive à s'intéresser à Dieu et comment est-ce qu'il allie, en fait, un peu les deux?
Je dirais. Il est d'abord croyant avant d'être scientifique et tout à l'heure David a fait référence à son texte Fiat Lux. On sent chez lui une aspiration à rejoindre les deux.
Il y a une volonté de rejoindre.
Il y a une volonté, oui, de penser le divin et de faire de la physique. Donc ça c'est très clair chez le jeune Lemaître. Et il aura l'intelligence suite notamment donc à son passage à Cambridge. Il aura l'intelligence de séparer les deux. Et je pense que ça c'est une très bonne chose puisque là. Ces idées vont être récupérées par les religieux et il va justement lui s'opposer à cette récupération. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'il avait tout à fait les moyens de développer son modèle du Big Bang sans s'encombrer entre guillemets des connotations religieuses et ça lui donnait de la force à ce modèle du Big Bang. Donc il l'avait bien compris, il l'a bien fait et sur ce point-là, on peut trouver qu'il a été relativement intègre. Ça ne veut pas dire après, ça c'est ce qui est toujours très difficile, qu'à un niveau psychologique il a été attiré par ce modèle du Big Bang. Et pour revenir à l'expansion tout à l'heure, ce qui va se passer, c'est que quand Edwin Hubble, en 1929, David a dit qu'il découvrait l'expansion. Alors, rétrospectivement, on peut dire qu'il découvre l'expansion.
Est-ce qu'ils connaissent les uns les autres les travaux de l'un et l'autre
en général, il a toutes les vitesses de Vestoslieffer. Il ne le cite pas, mais il les a toutes.
En général, ils se connaissent relativement bien, sauf l'article de Lemaître de 1927.
Il n'a pas d'écho,
effectivement, parce que Eddington à Cambridge ne l'avait reçu, ne l'avait pas lu. Il a fallu que Lemaître, deux ans plus tard, même trois ans plus tard, en 1930, quand il a lu une communication d'Eddington, il dit mais vous n'avez pas lu mon article, il le signale, et Eddington dit oh, pardon, et il relit l'article de Lemaître, il dit oh, et finalement, il fait la publicité de l'article de Lemaître en 1930, et c'est là que l'idée d'un univers dynamique vraiment devient importante dans la communauté, parce que de 1927 à 1930, on ne parle jamais des articles de Lemaître, ils sont passés sous silence, un peu à cause de Einstein, qui n'y a pas attribué d'importance, et puis ils ont aussi été publiés dans une revue belge, qui n'était pas la meilleure des
en
choses.
Français, en
1927, oui. C'est dans les annales de la Société scientifique de Bruxelles, et donc il y a une question aussi de traduction, c'est
exactement.
Ça David Elbaz.
Ça c'est très intéressant, parce qu'en fait, dans cet article écrit en France en 1927, c'est là où il y a une note dans laquelle Georges Lemaître explique l'expansion de l'univers avec la vitesse de 500 km par seconde, qui est celle qu'on pensait à l'époque, et qui vient de Vestoslieffer. Sauf que la version anglaise publiée dans Monthly Notices of the Royal Academic Society en 1931 ne fait pas mention de ça. Et donc, en juin 2011, Sidney Vandenberg, un astronome, écrit un article dans lequel il dit « mystérieuse traduction qui omet ça ». Quelques mois plus tard, un astronome David Block dit « c'est la preuve que on fait exprès, les Américains veulent masquer le fait que c'est un non-Américain qui a découvert l'expansion de l'univers, ils veulent pas qu'on retire... »
Une question de nationalité.
Ça à Hubble. Et il dit « à tous les coups, c'est Hubble qui a traduit l'article du français à l'anglais ». Et puis, 5 mois plus tard, en octobre, il y a Mario Livio qui écrit un article où il se rend compte qu'il y a une lettre de Hubble, de Lemaître, qui explique qu'en fait, c'est lui qui avait traduit en anglais et qui avait enlevé lui-même la note en expliquant que c'était plus la peine puisqu'il y avait eu des nouvelles données qui avaient été prises par Hubble et donc c'était pas un complot. Voilà, c'était pas un complot. Du coup, quelques années plus tard, l'Union astronomique internationale a décidé de changer le nom de la loi de Hubble en loi de Hubble-Lemaître.
Mais l'univers est en expansion, les galaxies s'éloignent de nous et donc s'éloignent tout court. À partir de cette observation confirmée donc par les calculs d'Hubble, Lemaître va formuler l'hypothèse de l'atome primitif nommé plus tard Big Bang. En quoi consiste cette théorie? Comment va-t-elle reçue? C'est la suite de notre programme juste après ça. Boum badaboum de Minouche Barelli sur France Culture. Nous explorons la découverte explosive du Big Bang et comment elle a changé le monde en compagnie de David Elbaz, astrophysicien au CEA, auteur de La plus belle ruse de la lumière et Si l'univers avait un sens aux éditions Odile Jacob, et de Thomas Lepelletier, essayiste et co-auteur de Big Bang, histoire critique d'une idée parue aux éditions Gallimard. On parlait à l'instant de l'expansion de l'univers, mais on est quand même dans les années 30. Est-ce que cette théorie, ou c'est, même s'il y a des mesures, est-ce que cette idée est communément acceptée, Thomas Lepelletier? Comment est-ce qu'elle est, elle est reçue? Est-ce qu'elle est reçue?
Alors, elle fait débat. Il faut bien se rendre compte que on n'observe jamais l'expansion. On ne voit pas les galaxies s'éloigner les unes des autres. On voit la lumière qu'elle nous envoie.
Un décalage vers le rouge.
Voilà, ce qu'on appelle un décalage, c'est le spectre de la lumière. Et il y a un décalage vers le rouge. Et une des interprétations de ce décalage, c'est qu'il y a une expansion de l'univers. Alors, dans le modèle de Lemaître, dans le modèle d'univers dynamique, ça s'interprète relativement bien. Mais un certain nombre de physiciens vont contester cette idée-là. Ils vont dire non, il ne faut pas aller trop vite, il y a d'autres interprétations. Et les deux autres grandes théories, il y a ce qu'on appelle la théorie de la fatigue de la lumière, qui va être développée par Fritz Zwicky, donc dès les années, à la fin des années, le début des années 30. Et lui, il va s'opposer, il va dire finalement non, il pourrait très bien y avoir une autre interprétation. Si la lumière parcourt un long chemin, plus elle parcourt de chemin, plus elle va se fatiguer. Et la fatigue de la lumière, c'est-à-dire la perte d'énergie, va correspondre à un décalage vers le rouge. Il dit finalement, ça pourrait très bien être une explication du décalage vers le rouge. Alors, il y a aussi d'autres modèles. Il y a un physicien qui s'appelle Edward Meene qui a essayé de réinterpréter le décalage vers le rouge dans un modèle qui n'intégrait pas la relativité générale et qui contestait donc un petit peu aussi l'idée que ce soit l'espace qui soit en train d'être en expansion. Donc, il y avait d'autres modèles comme ça qui contestaient l'interprétation qui faisait sens dans le cadre du modèle de Lemaître. Et pendant des années, les physiciens ne sauront pas tous. Alors, et ce qui est intéressant, moi, je trouve, quand on regarde rétrospectivement l'histoire, c'est que la plupart des physiciens ont des idées arrêtées. Ils n'ont pas une idée ouverte en disant tiens, on va essayer de voir quelle est la meilleure explication. Beaucoup ont des idées arrêtées. Par exemple, Lemaître, dès le départ, dès 1930, il est convaincu que l'univers est en expansion. Il n'en démordra pas jusqu'à la fin de sa vie. Mais quelqu'un comme ce qu'on appelle le découvreur de l'expansion, qui est donc Edwin Hubble, va être beaucoup plus prudent. Et pendant des années 30 aux années 1950, jusqu'à sa mort, il va essayer de tester différents modèles pour voir si finalement l'expansion est une expansion réelle, puisque ce décalage vers le rouge, si l'univers est en train de se diluer, il doit y avoir des indices qui nous prouvent qu'il y a une dilution. Et il va monter un certain nombre d'expériences pour essayer d'éliminer la thèse de Fritz Zwicky, de la fatigue de la lumière, ou la thèse d'Edouard Mean, et il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas, et jamais, dans tous ses articles, Lebel va dire que l'univers est en expansion. Il va dire que c'est une interprétation qui est tout à fait plausible. On sent même que c'est son interprétation préférée, mais il va jamais être affirmatif. Et c'est ça qui est intéressant de voir dans quelqu'un qui est relativement prudent par rapport à une interprétation ou aux différentes interprétations, et d'autres chercheurs qui, au contraire, même sans avoir toutes les corroborations possibles, vont dès le départ adopter et faire leur une idée.
Donc il y a un lien entre interprétation.
Est-ce que je peux mettre un bémol ?
Allez-y, bien sûr, David Hubble.
Je voudrais mettre un bémol. C'est juste sur le fait que on pourrait penser que Georges Lemaître part d'un a priori, et en particulier parce qu'il est religieux, qui est un a priori qu'il y a cette expansion. Or, en réalité, c'est un vrai physicien. C'est-à-dire que quand on lit l'article de Georges Lemaître, il explique bien la raison pour laquelle il va invoquer le concept de ce qu'il va appeler l'atome primitif.
Venons-y, voilà. Expliquons-le. Oui.
Et donc, son concept est simple, c'est exactement le principe dont on parlait tout à l'heure, qui est le second principe de la thermodynamique, et qui est parfois décrit comme étant que le désordre augmente. En réalité, ce principe ne dit pas que le désordre augmente. Le principe du second principe de la thermodynamique dit que l'entropie augmente. Alors vous allez me dire, vous êtes bien gentil, mais nous on est à la radio, et les gens quand ils se lèvent le matin, ils se disent pas, tiens, mon entropie a augmenté, je vais prendre un pain au chocolat.
Non, ou une chocolatine.
Ou une chocolatine, voilà, et là on commence à faire de l'entropie. Qu'est-ce que c'est que l'entropie? Et là, c'est simplement que si vous prenez, les choses ont tendance à se décomposer, à s'égrener, plutôt qu'à se combiner ensemble. Alors, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, des choses qui s'égrènent, c'est plutôt du désordre. Mais ce que va constater Georges Lemaître, c'est que les objets rayonnent de la chaleur, rayonnent de la lumière. Et le Fiat Lux, d'ailleurs, son principe du début, c'est le fait que tout corps qui a une température rayonne de la lumière. Or, la lumière est faite de grains. Et ces grains qui sont rayonnés augmentent le nombre d'objets. Et donc, il va dire, la principale source d'augmentation de l'entropie, c'est la production d'un grand nombre de particules, et en particulier d'énergie. Il écrit ça spécifiquement dans son article. Il dit, donc, si je remonte le temps, je vais arriver au moment du commencement de la multiplicité. Et donc, ce qu'il va appeler plus tard l'atome primitif, c'est le commencement de la multiplicité. Et donc, nous vivons dans un monde où ce qu'est la manifestation de l'augmentation d'entropie, c'est l'augmentation de la multiplicité. Et donc, pour lui, c'est une raison physique qui est celle qui fait que l'eau s'évapore, qui est celle qui fait qu'une pomme tombe d'un arbre, celle qui fait que tout ce qu'on observe. Et donc, il ne part pas d'un a priori religieux, ce qu'on pourrait penser. Il part d'un a priori physique. Et c'est toujours ça son guide. Ça, je trouvais que c'est important de mettre cette précision.
Et un point intéressant sur sa théorie de l'atome primitif, c'est justement qu'il y a un énorme atome, en fait, qui soit un peu le début de tout ça. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ça fait intervenir la radioactivité, qui n'a pas vraiment raison d'être à cet endroit, mais qui est dans l'air à ce moment-là. Et donc, finalement, il y a aussi cette subjectivité en fonction des théories qui sont en ce moment, du moment, qui sont dans l'air et qui lui permet, en fait, de formuler cette théorie qui est pas tout à fait réelle, puisqu'on sait maintenant que c'est pas ça, Thomas Lepelletier.
Mais c'est un bon aspect de la démarche de Lemaître. Il était à l'affût de l'observation physique. Il a toujours essayé, parce que c'est un théoricien, on a vraiment un très bon théoricien, mais qui regarde ce qui se fait. Et pour son modèle, comme disait David, il a tenu compte des mesures de Vestos-Slipher. Et là, pareil, il suit bien ce qui se passe en mécanique quantique et il va appliquer, bien sûr, ses idées de la théorie quantique. C'est un atome quantique, hein, c'est la radioactivité, on est tout de suite dans la physique quantique. Et ça, il va l'introduire dans sa cosmologie. Là, on voit bien le physicien qui est au point sur les différentes théories. Mais il y a un aspect aussi très important dans cet atome primitif, c'est qu'il veut répondre à l'objection de Kant que je disais tout à l'heure, puisque Kant disait qu'il peut pas y avoir de début, puisqu'on peut toujours penser à un avant le début, et quelque part l'atome primitif avec les effets quantiques lui donne l'impression, parce que on peut jamais savoir si vraiment ça résout la problématique de Kant, mais en tout cas dans l'esprit de Lemaître c'est très clair quelque part avec en commençant par un phénomène quantique il résout l'aporie, il pense résoudre l'aporie de Kant, où il peut y avoir un début aléatoire qui ne vient de rien, qui n'a pas de cause qui le précède. Et ça, c'était un aspect important.
On a justement la seule archive vidéo disponible de Georges Lemaître, redécouverte par hasard en 2022. Nous sommes en 1964, c'est Georges Lemaître que vous entendez à la RTBF.
Je pense que le point de vue est plutôt d'écarter, de répondre à votre question, en écartant justement ce que beaucoup de gens imaginent, c'est que je défends l'atome primitif, je ne sais pas moi avec quelle idée, quelle arrière-pensée religieuse. N'est-ce pas ? Naturellement, personne ne sait exactement quelle est sa psychologie et ce qu'il fait réellement. Mais non seulement consciemment, je n'ai pas du tout cette idée, n'est-ce pas ? Mais même, n'est-ce pas, je pense que l'impact de ces théories dans le problème philosophico-religieux est essentiellement différent. C'est justement que si ma théorie est correcte, elle fait en quelque sorte disparaître le problème philosophique de la création.
Une petite réaction peut-être à cette archive. Je sais, Thomas Le Pelletier, que vous ne la connaissez pas. David Albas, je sais que vous la connaissiez. Peut-être une réaction au fait qu'on puisse retrouver en fait, des pépites radiophoniques comme ça.
Elle me fait plaisir. Elle fait exactement écho à ce que je venais de dire. Comment finalement la radioactivité lui donne l'impression de résoudre un problème philosophique. Et donc, non, c'est une très belle archive.
Et il parle justement du fait que ce soit la plus grande critique qui va devoir affronter en fait, ce lien avec la religion. Il explicite que justement il fait bien la séparation entre les deux, mais c'est assez intéressant de dire que ce qui est testé, c'est pas la solidité ou l'élégance de son modèle, mais c'est sa posture et en fait ce qu'il fait à côté. Thomas Le Pelletier. Finalement, il y a cette question-là uniquement religieuse et pas de tester sa théorie comme un autre physicien parlerait à un physicien, par exemple.
Oui, mais la physique est toujours quelque chose de complexe. Et il est souvent difficile de tester les théories. Donc souvent, les physiciens entre eux, ils soupçonnent chez leurs adversaires ou leurs rivaux des idées non avouées. Et c'est ce qui va faire tout longtemps Fred Hoyle, le grand opposant justement au modèle du Big Bang. Il va s'opposer à ses partisans du Big Bang parce qu'il pense que quelque part, c'est pas forcément des religieux. Il va pas dire qu'ils sont tous des religieux, que ce soit des chrétiens ou autres. Mais il va penser qu'ils sont imprégnés de culture religieuse et que c'est cette imprégnation qui va les orienter à préférer telle ou telle théorie plutôt que dans des moments d'incertitude où on peut considérer que l'ensemble, les différentes théories en rivalité sont plus ou moins acceptables. Pourquoi certains physiciens privilégient fortement une théorie plutôt qu'une autre? Et là, c'est là qu'il peut faire intervenir soit des connotations explicitement religieuses, soit un fond culturel. Et c'est toujours une suspicion que l'on peut avoir.
Et c'est intéressant parce que finalement, le terme de Big Bang n'arrive qu'en 1949, justement, avec Fred Hoyle, qui lui reproche ce lien. Il y a un point tout de même où il n'a pas totalement tort, c'est-à-dire qu'il questionne aussi cette question d'atome primitif. À quel moment la théorie de l'atome primitif est remaniée pour enlever justement ce super atome, David Elbaz? Est-ce que c'est au moment de Gamow ou justement quand est-ce qu'elle devient autre chose, en fait, une sorte de soupe un peu plus primordiale?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je dis tout à l'heure, si la question c'est à quel moment va-t-on avoir une théorie du Big Bang, pour l'instant, on l'a pas. Cette idée que, alors évidemment, dans la vision actuelle, on arrive à ce moment de l'incertitude quantique, où on peut dire, bon, bah là, il y a une barrière qui fait que c'est normal qu'on l'ait pas, c'est pour ça, j'ai pas fait exprès, excusez-moi, c'est pas de ma faute. On a une limitation. Mais avant d'en arriver je pense qu'il faut se dire que les a priori vont dans tous les sens. On peut dire, voilà, lui, il est religieux, il a un a priori qui est de vouloir le commencement de l'univers ou quelque part la création. Freud peut faire exactement l'inverse. C'est-à-dire que lui, il a un a priori contre la religion.
Jusqu'à sa mort, surtout.
Voilà, il va dire la phrase suivante. Il va dire, les scientifiques aiment le Big Bang parce qu'ils sont obnubilés par le livre de la Genèse. La première page de la Genèse est très profondément inscrite dans le psychisme de la plupart des scientifiques. Il dit ça en 1941 dans une émission de la BBC qu'il anime. C'est lui qui va introduire le terme Big Bang. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'émission que vous avez mis, un peu avant ou un peu après, il explique pourquoi il dit ça. Georges Lemaître. Il dit ça en réponse. Il dit ma théorie, en fait, est moins, quelque part, imprégnée de religion que la vision de l'univers de Fred Hoyle. Pourquoi ? Parce que dans le modèle de Fred Hoyle, qui est un univers stationnaire, vous devez, pour coller avec les observations, avoir ce qu'on appelle une forme de création continue de matière, qui est l'équivalent d'une voie lactée sur une boîte qui a quelques milliards d'années-lumière tous les milliards d'années. Oublions le nombre. Mais il faut que ce soit parfaitement ajusté. Donc vous avez un ajustement fin. Et c'est ça que critique dans cette émission-là. Après, on peut en discuter, mais Georges Lemaître, il dit, voyez, ma théorie à moi n'a aucun ajustement. Il y a juste un principe physique que vous observez en laissant tomber un verre qui se casse, vous allez voir ce truc de la multiplicité. J'ajuste rien, je vous dis juste ça. Lui, il a un ajustement fin. Et vous me dites à moi que je suis religieux ? C'est ça qu'il dit. Ça, je trouve ça c'est intéressant. Mais par contre, et c'est là où on doit être humble, c'est qu'on pourrait se dire, maintenant, on regarde l'histoire avec distance, et puis nous, maintenant, on a un modèle qui fonctionne et on sait tout. Évidemment, l'histoire montre qu'on se trompe nécessairement sur quelque chose qui va être nécessairement majeur, sauf si on est vraiment arrivé à la fin, donc c'est pas possible. Donc, au moment où je parle là, moi, je travaille avec une culture qui est obligatoirement fausse. Obligatoirement, puisqu'on progresse, n'est-ce pas ? Et donc, comment faire ? Il faut être capable d'accepter qu'il y a quelque chose qui me paraît impossible aujourd'hui et qui est une réalité de demain. Ça, il faut toujours le garder à l'esprit.
France Culture, ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbeau.
Et on en vient justement aux implications de cette découverte et de l'élaboration de ce modèle. Vous parliez un petit peu de subjectivité. L'une des implications peut-être les plus majeures, c'est celle de replacer l'humain de nouveau au centre du monde. Depuis la révolution copernicienne, en fait, il n'y était plus. On s'est décalé par rapport au soleil. Et finalement, là, on y est revenu et on y sera un petit peu pour toujours, en fait, finalement, David Elbaz.
Oui, il s'est passé, pour moi, une révolution initiatique, pas simplement scientifique, avec ce qu'on appelle la révolution copernicienne. Quand on demande aux gens qu'est-ce que c'est que la révolution copernicienne, ils vous disent « avant on était au centre du monde, maintenant on n'est plus au centre du monde ». En réalité, c'est pas...
Du système solaire, oui.
Alors, d'abord, mais avant le monde, c'était le système solaire, parce qu'il y avait... Et en fait, c'était pas complètement vrai, parce que même chez les Grecs, il y avait un écoin, c'était décalé, enfin bon. Le vrai truc qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que le monde tournait autour de nous. Le monde tournait autour de nous avec un axe du monde qui partait des pôles, axis mundi, il y a tout une chose. Et donc on était reliés au ciel qui tournait autour de nous. Mais sauf que quand vous tournez sous votre chaise de bureau et que vous voyez le bureau qui tourne autour de vous, il y a deux possibilités. Soit le bureau tourne autour de vous, soit vous tournez sur votre chaise. Et ce qu'a dit Copernic, c'est qu'on tourne sur notre chaise. À partir de là, il s'est passé quelque chose d'énorme. C'est qu'il a coupé le cordon ombilical qui nous reliait à l'ensemble de l'univers. Et là, qu'est-ce qu'a fait l'humain ? L'humain qui s'est retrouvé face à cette naissance, c'est la naissance de la science. Pour moi, c'est une naissance de la science comme la naissance d'un humain quand on a coupé le cordon ombilical qui nous relie à l'éternité du ciel. Et où est-ce qu'on va trouver l'éternité ? On va la trouver dans les équations mathématiques. Et donc, on va chercher à s'approcher de l'éternité en nommant l'éternité dans les équations mathématiques. Ça va être la quête cachée des scientifiques. Aucun scientifique vous dira qu'il fait ça. Mais c'est ça qu'il fait. Un scientifique, quand il vous parle, il vous dit... d'après la théorie quantique des champs, on peut dire que le proton... Qu'est-ce qu'il veut dire ? J'ai pas envie de mourir.
Oui. La question du sens,
c'est ça la question. Quand on parle de... C'est qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi un univers qui a explosé m'a donné vie ? C'est ça. Mais on va pas dire ça. On va dire cette galaxie est une galaxie spirale en rotation qui va peut-être en interaction avec telle autre et peut-être que ça va donner des... C'est ça. Ouais. Donc, les conséquences de cette théorie, ça va être d'ouvrir... tout un pan de questionnement philosophique, avoué ou pas avoué. Et donc, avec Copernic, on est coupé du centre du monde. Et qu'est-ce qui va se passer de nouveau d'un point de vue initiatique avec la découverte de l'expansion de l'univers? Ben, on est au centre de fuite de l'univers. Donc, on est un centre à partir duquel tout s'en va. Mais c'est un centre virtuel. Mettez quelqu'un ailleurs, à 1 milliard d'années-lumière de chez nous, il sera au centre, pareil. Mais il est toujours au centre. On ne sortira jamais. Et c'est ce qui nous arrive tous les jours. Quand je vous parle de l'intérieur de moi-même. Les gens qui m'écoutent, il n'y en a pas un qui entend la même chose. Il n'y en a pas un qui entend la même chose. Et si vous demandez à 10 personnes de répéter ce que j'ai dit, ils vont dire 10 choses différentes. Parce qu'on est chacun des centres qui vont entendre un tout qui n'est pas le même. On ne peut pas s'en sortir. Bon, et donc c'est ça tout le défi de la science, c'est d'arriver à un langage commun. Et donc aujourd'hui, on est de nouveau au centre d'un univers, et on accepte qu'il est virtuel. Et le paradoxe auquel on est confronté, c'est que c'est cette croisée entre l'individu et l'universel, c'est ça le nouveau paradoxe.
Et c'est cette question justement du sens, du questionnement de nos origines, Thomas Le Pelletier.
Ouais, je vais retrouver un peu David, mais avec peut-être un autre angle. Par rapport à déjà la révolution copernicienne, je pense qu'il a eu raison de signaler que la révolution copernicienne est souvent mal interprétée. On a dit qu'elle, quelque part, elle déplaçait l'homme, elle faisait perdre notre place centrale. Nous étions juste une planète parmi d'autres. Après, on va dire que les autres révolutions nous auraient montré que nous sommes un système solaire parmi d'autres, que les galaxies sont une galaxie parmi les autres. Mais il y a quelque chose, en réalité, d'un changement, je dirais, plus profond et qu'avait déjà perçu Auguste Comte au 19e siècle quand il parlait de la révolution Copernic. Il disait que si la révolution copernicienne avait humilié la vanité de l'homme, elle lui avait donné un sentiment plus élevé de sa dignité intellectuelle. Et s'il disait ça, c'est parce que quelque part, il a une phrase assez courte, il disait « À l'idée fantastique et énervante d'un univers arrangé pour l'homme, nous substituons la conception réelle et vivifiante de l'homme, découvrant par un exercice positif de son intelligence les vraies lois générales du monde. » Donc il y avait une position orgueilleuse finalement. La révolution copernicienne permettait à l'être humain de connaître les vraies lois du monde. Et donc vous voyez, on n'est pas du tout dans l'humilité dont souvent on nous parle. Et la théorie du Big Bang ou le modèle du Big Bang va, je dirais moi, renforcer cet orgueil d'une certaine manière. Puisque comme je disais en début d'émission, au 19e siècle, au début du 20e siècle, il y avait encore une grande incertitude sur la toile de fond dans laquelle on vivait. Et le modèle du Big Bang va nous montrer que nous sommes finalement issus d'une histoire bien précise, et que nous, que ce soit à la fin du 20e siècle ou au début du 20e siècle, on peut concevoir toute cette histoire du début à la fin. Nous sommes l'aboutissement de cette histoire, et cette histoire converge vers des consciences qui sont capables de se penser. Et certains astrophysiciens, par exemple un grand vulgarisateur, comme Carl Sagan, vulgarisateur américain qui était très célèbre, disait que finalement, l'univers se pense à travers l'être humain. Vous voyez, il y a une espèce de presque une vision religieuse que l'univers a trouvé en l'être humain le moyen de se penser lui-même. Et donc ça ouvre sur un nouvel orgueil, la théorie cosmologique du Big Bang.
Et il y a aussi ce qui se passe maintenant. On a évoqué l'expansion de l'univers et on n'a pas dit quelque chose, qu'il y a une accélération en fait de cette expansion, que le vide s'accroît, que la température décroît, il y a une sorte d'explosion vers une mort froide. En fait, c'est un récit aussi qui peut susciter un petit peu des angoisses. Qu'est-ce qu'on sait maintenant en fait? On arrive à maintenant ce qu'on sait de la découverte du Big Bang et de ses modèles et de l'expansion de l'univers.
Alors, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a 6 milliards d'années, un mardi, l'univers, son expansion s'est mise à accélérer. Donc, c'est un peu comme si je shootais dans un ballon, il monte vers le haut, il commence à redescendre, et puis là, il repart vers le haut. Donc là, il a besoin d'un petit moteur, c'est comme si on shootait une deuxième fois. Et donc, on appelle ça la nouvelle inflation. La première inflation, c'était le Big Bang. Et c'est peut-être un phénomène analogue au Big Bang. On a peut-être l'opportunité de l'étudier en direct avec cette nouvelle inflation. L'origine de ça, on ne la connaît pas bien. On parle d'une énergie noire. Et le mystère s'approfondit. Voilà. Alors, quand on se dit, est-ce que l'univers va vers un destin d'être un univers froid, une mort froide, etc., c'est complètement débattu en fonction de la nature de ce que c'est que cette énergie. Un article a été publié il y a quelques jours, justement, d'une collaboration qui s'appelle DESI, Dark Energy Survey, voilà, qui dit que peut-être qu'en fait, ça serait pas ce qu'on pense, que ça serait une forme de ce qu'on appelle une quintessence, le retour de la cinquième essence, et peut-être qu'en fait, il pourrait même revenir sur lui-même, etc. Donc, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir de l'univers. Concernant le point dont parlait Thomas tout à l'heure, qui est de savoir, mais comment se place-t-on dans cette histoire-là avec un univers qui a un premier Big Bang, puis un deuxième, et puis nous, on est là. Est-ce qu'on est, alors, d'un côté, un bug qui provoque en plus le réchauffement climatique, ou est-ce qu'on est l'aboutissement voulu, etc. Ben, si on prend le raisonnement de Georges Lemaître, on fait partie d'une logique, la vie, qui répond au second principe de la thermodynamique. C'est-à-dire que la vie est mécaniquement un mécanisme qui produit plein de photons. 200 000 fois plus de photons sont produits par un kilogramme d'êtres vivants que par une étoile. Et donc, en termes de multiplicité qui augmente, la vie s'inscrit dans cette logique. Est-elle nécessaire? Non. Elle pourrait très bien ne pas avoir émergé, c'est lié au... Mais par contre, elle ne viole pas les lois de la physique, et elle s'inscrit dans la loi de la physique, donc c'est de la mécanique pure. Après, chacun est libre de croire autre chose, mais donc voilà.
Une dernière question, la dernière question à Thomas Lepaltier, justement, sur cet enjeu d'interprétation. À nouveau, on va faire de nouvelles mesures. Vous avez parlé de DESI, qui est justement des relevés pour mesurer en fait, l'expansion de l'univers. Donc on aura des nouvelles mesures et donc de nouvelles interprétations et donc de nouveaux modèles, finalement.
Je crois qu'il y a eu une évolution intéressante du modèle du Big Bang depuis qu'il est à l'apogée, depuis qu'il a vraiment vaincu ses concurrents, on va dire, à la fin des années 60 et donc au début des années 70. Finalement, on croyait que le modèle du Big Bang allait être assez simple et il s'est complexifié et complexifié décennie après décennie. Et il y a encore des grandes incertitudes maintenant sur le modèle du Big Bang, dont celle dont parlait David. Et moi, je me demande si finalement... on n'arrive pas finalement à une perte de cette notion, une nouvelle perte de cette notion d'univers, notamment avec cette référence au multivers, parce que déjà on ne sait même pas si notre univers
va... Si le début est le début.
S'il va accélérer, s'il accélère vraiment, ça c'est une interprétation des observations, mais il y a aussi des interprétations concurrentes qui disent que c'est des effets de perspective qui nous donnent l'impression que l'expansion est en train d'accélérer, et on ne sait pas donc finalement s'il y a une accélération, même si on donne des prix Nobel à des gens pour avoir découvert une accélération. Rétrospectivement, on ne sait même pas s'il y a une accélération. Et donc, j'ai un peu l'impression que là, actuellement, c'est le concept d'univers qui repère de sa consistance. Comme disait Bachelard, l'univers n'a rien d'un objet. Gaston Bachelard ne croyait pas qu'on puisse penser l'univers. On était en 1938, il connaissait les travaux de Lemaître et il disait non, finalement, c'est l'infini, l'univers, c'est l'infini de notre inattention. Voyez, et je pense que cet univers dont quand je parlais, il y avait un problème du concept d'univers, de quel univers on parle, c'est-à-dire de notre région, déjà, on a du mal à la percevoir. Et si on imagine que notre région cosmique est plongée au sein d'un multivers, de quoi parle-t-on, finalement? On se perd.
On se perd, on finira sur ces mots. Merci à vous deux, David Elbaz et Thomas Lepeltier, d'être venus nous raconter l'histoire de la découverte du Big Bang et comment elle a changé le monde. Sophie Catherine Gallet à la préparation de cette émission, Sam Bakiast à la réalisation et aujourd'hui à la technique, c'est Élise Leu. On se quitte en musique avec Running Start de Soufiane Stevens. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres découvertes scientifiques qui ont changé le monde sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Drown.